En ce moment, pour mes méditations personnelles, quotidiennes, je suis les lectures qui sont proposées dans le parcours E100. Et cette semaine, j'ai lu un texte qui nous rapporte le tout début du roi Salomon. Et on trouve cela dans 1 roi au chapitre 3. Et donc chaque matin, dans mes habitudes, je commence ma journée par un café. Je me lève, je me prépare un café. Ça, c'est pour réveiller mon esprit, mais aussi par une lecture, une méditation de la parole de Dieu. Je fais en sorte que le Saint-Esprit éveille mon cœur et mes pensées. Et voilà le texte que j'ai lu cette semaine, 1 roi 3, et ce sont les versets 2 à 4. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusqu'à là, on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon aimait l'Éternel. Et en signe de son amour pour Dieu, il décide de lui offrir, non pas un, mais 1000 sacrifices. Il fait ça publiquement devant les autres, et c'est ainsi qu'il va exprimer son amour pour Dieu. Mais notre passage nous rapporte que derrière cette démonstration d'amour public se cache, en fait, une désobéissance à la volonté de Dieu. Parce que le commandement de Dieu était celui-ci, par exemple Deutéronome 12-13, Dieu avait dit à Moïse, qui devait le transmettre à tous ceux qui viendraient derrière, « Veille bien à ne pas offrir tes holocaustes dans tous les endroits que tu verras. » Et pourtant, qu'est-ce que fait Salomon, verset 4 ? Le roi se rendit à Gabaon, une colline, pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Alors, à la décharge de Salomon, c'est à cet endroit, à Gabaon, que se trouve la tente qui avait été construite par Moïse pour abriter l'Arche d'Alliance pendant la traversée du désert, ainsi que l'autel de bronze qui avait été spécialement fabriqué pour pouvoir offrir des sacrifices à Dieu. Sauf que l'arche de Dieu n'est plus à Gabaon. Parce que David, son père, le roi, l'avait déplacée jusqu'à Jérusalem. Et selon les commandements de Dieu, aucun sacrifice ne pouvait être fait ailleurs que devant l'arche d'Alliance, ou bien sur un des très rares autels qu'il avait lui-même commandé que l'on construise pour lui offrir des sacrifices. Mais ce n'était pas le cas de Gabaon. Salomon, en ceci, ne fait pas ce que Dieu avait commandé, mais en fait, il fait simplement la même chose que faisaient les autres. Il ne fait que suivre le mouvement, imiter le peuple, verset 2. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux. Et Salomon va faire comme eux. Salomon aime Dieu. Il veut manifester son amour pour Dieu en lui offrant des sacrifices. Mais il va le faire à sa manière et non pas comme Dieu l'a ordonné. Alors, Dieu n'a pas rejeté Salomon pour autant. Puisque immédiatement après cet épisode, on ne va pas le lire, mais c'est dans vos Bibles, Dieu teste le cœur de Salomon et il lui demande « Que voudrais-tu que je te donne ?» Et là, Salomon a une réponse extraordinaire. Il demande simplement à Dieu la sagesse pour pouvoir bien diriger le peuple. Et cette demande plaît à Dieu, qui lui accorde alors une immense sagesse, mais aussi des choses qu'il n'a pas demandées, la gloire et la richesse. Et tout de suite après cela, que Dieu lui dise cela, le texte biblique nous rapporte que Salomon, en reconnaissance à Dieu, va à nouveau lui offrir des sacrifices. Et est-ce que c'est en raison de cet épisode de proximité avec Dieu ou bien grâce à la sagesse que Dieu lui a accordée, mais cette fois-ci, Salomon va respecter la volonté de Dieu. On trouve ça au verset 15. Qu'est-ce que fait Salomon ? Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Et il fit un festin pour tous ses serviteurs. Alors cet épisode du début du règne de Salomon met en lumière ce que va être la vie de Salomon avec Dieu. Salomon est un homme qui aime Dieu, un homme qui va même parler de Dieu avec beaucoup de sagesse. Il va dire des choses extraordinaires sur Dieu. C'est un homme aussi qui va faire un certain nombre de grandes choses pour Dieu, mais c'est également un homme qui ne va pas toujours suivre la volonté de Dieu. Salomon aimait Dieu, toutefois. Salomon aimait Dieu, mais. Mais il y avait quelque chose dans sa vie, dans son cœur, un petit quelque chose où il refusait de suivre Dieu. Et ce petit quelque chose va, au fur et à mesure des années, amener Salomon à s'éloigner de plus en plus de Dieu. Et à la fin de sa vie, on ne sait pas trop où en est Salomon avec Dieu. Hein. Ce n'est pas très brillant. En lisant ce passage, dans le cadre de mon culte personnel, je me suis dit, et moi, qu'est-ce que dirait Dieu de moi ? Est-ce que Dieu dirait tout simplement, Pierre-Yves aimait Dieu ? Ou bien est-ce qu'il dirait, Pierre-Yves aimait Dieu, mais ? Toutefois. Et je vous invite à vous poser cette question à votre tour. Est-ce que Dieu dirait tout simplement de vous que vous l'aimez ? Ou bien est-ce que Dieu rajouterait « toutefois ». Toutefois, son cœur était dur avec les autres et refusait de pardonner, comme moi je lui ai pourtant pardonné. Toutefois, il préférait plaire aux autres plutôt que me plaire. Toutefois, il ou elle prenait dans ma parole seulement ce qui l'arrangeait et écartait ce qui le ou la dérangeait. Toutefois, il préférait suivre ses propres pensées, ses propres idées, sa propre culture, plutôt que d'être à l'écoute de mon esprit. Toutefois, il ou elle préférait suivre les désirs de son corps plutôt que ma volonté. Toutefois, il ou elle préférait se cacher derrière des mensonges et les ténèbres plutôt que de vivre dans la vérité et dans la lumière. Toutefois, il, comme moi ce matin par exemple, toutefois il savait se montrer dur avec ses enfants lorsque ceux-ci l'empêchaient d'être à l'heure au culte. Toutefois, il ou elle privilégiait son intérêt personnel plutôt que celui de mon royaume. Toutefois, et cette liste, on pourrait l'allonger et l'allonger. Est-ce que notre cœur est tout entier à Dieu, ou bien est-ce que Dieu dirait que nous l'aimons toutefois ? C'est une question importante parce que cela manifeste la réalité de notre amour pour Dieu, la réalité ou l'absence de notre amour pour Dieu. Et c'est ça qui va aussi déterminer l'orientation de notre vie. Est-ce que nous allons toujours plus nous rapprocher de Dieu, ou bien est-ce qu'au contraire, nous allons nous éloigner de lui petit à petit ? Lorsque nous sommes conscients qu'il y a quelque chose dans notre vie qui s'oppose à la volonté de Dieu, ou bien qu'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans nos cœurs, nous pouvons être reconnaissants de ça parce que c'est grâce au Saint-Esprit que nous devons ça. C'est le Saint-Esprit qui touche notre conscience. C'est Dieu qui s'adresse à nous par son Esprit. Il parle à notre cœur, à notre intelligence. Et c'est lui qui nous fait prendre conscience d'un péché, d'un obstacle que nous avons dressé nous-mêmes entre lui et nous. Et Dieu nous invite alors par ce moyen, par cette prise de conscience de notre péché, il nous invite à abandonner notre péché afin que nous puissions nous rapprocher de lui. parce que notre péché nous sépare de lui. Et les péchés que nous refusons d'abandonner manifestent que notre amour pour Dieu n'est pas total. C'est ça quand il y a un refus, c'est que notre amour pour Dieu n'est pas total. Alors, aucun de nous n'est parfait, et heureusement, heureusement que nous vivons sous la grâce. La grâce sans laquelle aucun de nous ne pourrait s'approcher de Dieu. Jésus a donné, on l'a dit tout à l'heure, a donné sa vie pour le prix de notre péché. C'est le sacrifice de Jésus qui nous prouve que Dieu nous aime, et c'est parce qu'il nous a aimés en premier que nous, nous pouvons l'aimer en retour. Nous savons aussi que si nous sommes en Christ, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et je pense que nous serons éternellement reconnaissants de la grâce qui nous a été accordée en Christ. Mais si jamais, aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que nous aimons Dieu, toutefois, il y a ceci ou cela qui ne correspond pas tout à fait, voire pas du tout, à la volonté de Dieu, alors nous devons nous repentir. Parce que nous sommes, non seulement nous attristons Dieu, mais notre relation même avec Dieu est menacée. Nous devons reconnaître notre péché devant Dieu, nous devons lui demander pardon et prendre la ferme résolution de ne plus pécher, mais d'aimer alors Dieu de tout notre cœur. Parce que si jamais nous ne faisons pas cela, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons attrister l'Esprit de Dieu, nous allons éteindre le Saint-Esprit qui vit en nous, et nous allons de plus en plus nous éloigner de Dieu. À moins même que ce soit pire que cela, et que notre refus de nous repentir ne soit en fait simplement que la manifestation que nous n'aimons pas Dieu, et que nous ne sommes pas sauvés. Parce que voilà de quelle manière nous savons si nous aimons Dieu ou pas. 1 Jean 5,3 nous dit que l'amour de Dieu consiste à respecter ses commandements. Notre amour pour Dieu se manifeste par notre respect de Dieu, de la personne de Dieu, mais aussi de sa volonté. Et dans tous les cas, que nous soyons un peu écartés ou que nous ne connaissions pas Dieu, le péché que nous tolérons dans notre vie est en tout cas le signe que notre amour pour Dieu n'est pas total et que nous ne sommes pas aussi proches de Dieu que nous pourrions l'être. Mais par la grâce qui nous est accordée en Jésus, merci Seigneur, eh bien à tout moment, nous pouvons prendre un nouveau départ avec Dieu. Et c'est ça que moi je trouve vraiment formidable dans l'action de Dieu dans nos vies, dans la manière dont le Saint-Esprit nous parle. Ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous inviter à nous repentir. Dieu nous offre une nouvelle opportunité de venir à lui, à condition bien sûr que nous prenions alors la décision de le suivre, plutôt que de suivre les autres ou bien de suivre notre propre péché. Demandons à Dieu de nous montrer les domaines de notre vie où il dirait toutefois. Il ou elle-même, toutefois. Le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de notre péché. Eh bien, n'attristons pas, n'éteignons pas l'Esprit de Dieu qui vit en nous, mais au contraire, repentons-nous de notre péché et cherchons ainsi à nous rapprocher de Dieu. C'est une nouvelle opportunité que Dieu nous aime, nous offre, pardon. Que Dieu puisse dire lorsqu'il nous verra, si un jour il doit se prononcer sur nous, dire « Voici quelqu'un qui aimait Dieu. » Amen. Je vous invite un temps de prière et après un chant en conclusion de cette méditation. Seigneur, je veux te remercier pour chaque fois que dans ma propre vie, tu m'aides à prendre conscience des toutefois, de ces mais qui font que je suis en porte-à-faux avec toi, ta volonté. Merci parce que par ces prises de conscience, tu m'invites à venir à toi. Mais aussi tu me mets en garde, que je suis en train, indépendamment de mon amour pour toi, de m'éloigner de toi. Merci Seigneur pour toutes ces occasions ou par ton esprit, tu nous montres notre péché. Que nous puissions ne jamais, Seigneur, nous endurcir, ne jamais faire comme si ce n'était pas grave. Le péché est toujours grave. Et que nous te demandions pardon pour cela, mais pas simplement pour continuer, parce que ça, ce n'est pas la véritable demande de pardon. Que nous nous repentions de notre péché, que nous prenions la ferme résolution de ne plus pécher, en comptant que, comme tu l'as dit, tu ne permettras pas que quoi qu'il nous arrive, que ce soit au-delà de ce que nous pouvons supporter. Merci Seigneur pour ta grâce renouvelée chaque jour, pour ta grâce sans laquelle aucun de nous ne pourrait se présenter devant toi. Et bien que nos cœurs puissent te réjouir, mais que nous puissions aussi, comme nous l'avons si entendu tout à l'heure, en te remettant au centre de nos vies, à la première place, que nous puissions pleinement, Seigneur, retrouver la joie de notre salut, de cette vie extraordinaire, de cette vie pleine, entière, merveilleuse, que nous pouvons vivre avec toi, en toi, pour toi. Amen.